Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le Gratin Frédéric Genta. Allez faire un tour sur son compte LinkedIn, Frédéric Genta. G-E-N-T-A, il vaut le détour et faites-lui d'ailleurs un petit signe si cet épisode vous a plu. Je vous lis ce que Wikipédia nous dit de lui. Diplômé de l'ESCP Europe et d'un MBA de la Harvard Business School, Frédéric Genta a eu une carrière de dirigeant au sein de multinationales telles que Google, Amazon et Orange en Europe et aux États-Unis. En mars 2018, le prince Albert II de Monaco le nomme en charge de l'ensemble des sujets numériques pour la principauté de Monaco. Son périmètre recouvre les infrastructures, la transformation de toutes les composantes de l'État, la Smart City et la transformation de l'économie monégasque par le numérique. À la tête d'une administration de plus de 170 personnes, il rend compte directement au ministre d'État. Au-delà de tout ça, ce qui est évidemment très impressionnant, Fred est d'abord un ami de longue date et une personne que j'admire beaucoup pour son humilité, sa franchise et son acuité business. Fred vous le dira, il n'est pas entrepreneur. Il a toujours rêvé d'une grande carrière corporate. Certains diraient même qu'il est politique, mais pour moi, c'est plus qu'il a un vrai sens de leadership. Il se peut que le discours de Fred ne plaise pas à tout le monde d'ailleurs, il assume qui il est, ce qu'il vaut et là où il va. C'est une posture que je respecte énormément. Avec Fred, on a évoqué de nombreux sujets que je n'ai encore jamais abordés sur le gratin. Comment se constituer un réseau, d'autant plus quand on est un faux extraverti comme lui. Comment apprendre à maîtriser ses craintes quand on a peur du risque. Sa méthode pour atteindre de vrais résultats, qu'il a notamment implémenté chez Google où il a eu des résultats tangibles. En quoi le dialogue et la pédagogie sont clés pour faire accepter ses idées et arriver à ses fins. Ou encore, pourquoi chaque détail compte et qu'assumer d'être responsable de ses décisions est un acte fondamental de leadership. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Genta. Salut Fred, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Écoute, je suis contente de t'avoir et en plus tu as très peur de cette première question que je vais te poser, on en a discuté un petit peu avant. Non, blague à part, on se connaît depuis un moment, il y a toujours un truc qui m'a vachement impressionné chez toi, c'est que je trouve que tu es quelqu'un qui arrive à créer des connexions humaines absolument incroyables. Certaines personnes diraient peut-être que c'est réussir à se créer un réseau, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça, c'est que tu arrives en fait à te faire aimer, à aimer les gens aussi, enfin tu arrives vraiment à tisser un lien humain assez fort. Et du coup, ma première question, elle est à ce sujet-là. Tu dirais que ça vient d'où ta capacité comme ça d'empathie, de relationnel, d'où tu tires ça? Et puis est-ce que t'as, parce que le podcast est souvent assez pratique, est-ce que t'as un peu créé des outils ou des méthodes? Enfin, est-ce que t'as déjà réfléchi à ces sujets-là et est-ce que tu saurais me donner des raisons qui font que t'es aussi bon, on va dire, pour networker?
Effectivement, je ne m'attendais pas à cette question pour commencer. Alors, les explications, à mon avis, l'explication, c'est que j'ai un naturel, en fait, très introverti. Et du coup, et c'est d'ailleurs dans tous les profils MBTI, d'ailleurs, je recommande à chacun de faire les tests MBTI.
C'est quoi d'ailleurs
en MBTI? Donc, le MBTI, en fait, c'est un test qui est basé sur la psychologie de Jung et qui distingue 16 profils psychologiques. C'est a priori le test à date le plus précis et qui touche 4 variables. Est-ce que vous êtes introverti, extraverti? Donc, extraverti, ça veut dire je me ressource avec les autres personnes. Introverti, je me ressource seul. C'est typiquement dans l'équipe de football, ceux qui jouent à la belote devant le bus ou ceux qui restent avec le casque au fond. Est-ce que je suis ce qui s'appelle sensitive ou intuitive? Est-ce que donc j'ai besoin de partir du global pour aller vers un particulier ou au contraire des faits pour émettre une théorie? Jusqu'où on est conceptuel? Est-ce que je suis plutôt affectif, un filler, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui raisonne? Est-ce que l'information, je la prends d'abord avec le cœur, les tripes, ou quelque part avec l'aspect rationnel? Et enfin, dernière variable, c'est est-ce que je sais m'accommoder du chaos ou pas? Est-ce que j'ai besoin que tout soit rangé dans une case pour être à l'aise, ou est-ce qu'au contraire, je sais un peu naviguer avec le flow? Et je pense que le fait d'être assez introverti, d'avoir besoin dans la journée d'avoir un nombre d'heures où je regarde mes séries, je vis un peu ma vie, je fais mon sport, etc., fait que naturellement on choisit les gens qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, et je pense que les gens le sentent. Donc en fait, c'est pas vraiment faire du réseau, c'est avoir des personnes dont tu fais partie, avec qui on est vraiment à l'aise, avec qui on peut échanger. Et je pense que le premier pas conseil, mais l'intuition que j'ai, c'est que, en fait, faire du réseau et donner sa carte à 100 personnes, ça vaut pas grand chose. Je pense qu'il vaut mieux être à l'aise avec des gens avec qui on peut partager, échanger sur le long terme. Et ensuite, à partir de ces gens-là, de cette base, rencontrer d'autres qui sont dans le même état d'esprit. En fait, je pense que c'est un petit peu ça. Moi, je me dis que je sais pas, chaque fois des gens des bons moments, tu sais, vraiment de mettre échanger, comprendre. Il y a beaucoup de personnes aussi où quand je suis moins à l'aise, je vais effectivement moins m'impliquer, mais le fait d'avoir peu et de s'impliquer fait qu'on arrive à créer des vrais liens. Donc ce serait un peu l'anti-conseil du networking, c'est
non,
vraiment
mais je pense que
peu
c'est
bien
juste.
Quoi.
C'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi je pense que je suis plutôt introvertie et c'est vraiment rigolo que tu me dises que tu l'es parce que en fait maintenant je le comprends, mais en réalité je pense que 90% des gens qui te connaissent jamais penseraient que tu es quelqu'un d'introverti. Et bon, enfin c'est rigolo, mais je pense que des personnes introverties effectivement cherchent un peu plus de sens peut-être.
Exactement.
Et pas uniquement un contact, une fusion, mais des vrais thoughtful, on va dire, si je fais des anglicismes, interactions. Et c'est vrai que j'ai toujours senti ça avec toi, mais je pensais pas que t'étais introvertie. Donc tu vois, j'apprends quelque chose.
C'était quand on s'est connus, quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'étais connu pour faire des one-to-one coffee, alors que les Américains adorent les grandes tables, et moi, à plus de 6 personnes, je me bloque.
Ouais.
Et donc c'est vraiment l'aspect interpersonnel qui permet, je pense, de cultiver ça.
Hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup. Justement, tu me fais une belle transition parce que je voulais parler du MBA. Alors, je sais que tu n'as pas du tout commencé par ça, bien évidemment, parce que c'est un MBA, mais tu as commencé par une école de commerce, le SCP, d'ailleurs où tu donnes aujourd'hui des cours. Et ensuite, première expérience chez Orange. Tu décides de partir aux États-Unis pour faire ce MBA, donc à Harvard, hyper prestigieux, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ton processus de pensée? Pourquoi est-ce que tu te dis un jour, peut-être que c'était pas juste un jour, mais pourquoi tu te dis, il faut que j'aille faire un MBA, en plus aux États-Unis qui plus est, donc très loin, très coûteux, enfin c'est quand même en termes d'implication personnelle important. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de franchir ce cap et d'aller dans cette école ou dans une école américaine, parce que tu n'étais pas forcément évidemment obligé de terminer Harvard?
Ouais, et alors ça c'est une question effectivement que j'ai souvent, surtout quand, enfin toi comme moi, on a fait une école de commerce, donc on se dit qu'est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce que c'est pas une redite? Non, il y a plusieurs
questions.
C'est pas
en France,
en fait.
C'est pas fréquent quand même.
C'est pas fréquent en France. Il y a à peu près une dizaine de Français à Harvard par promotion, en tout cas de Français qui ont été éduqués dans le système grande école française à Harvard par an. Moi, mon raisonnement, il était assez simple. En fait, j'ai une conviction déjà, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre à 22 ans quand on a fini le SCP, quand on a réussi son concours, etc., etc. On se dit pas à un moment, c'est bon, je sais. Et maintenant, le reste de ma vie, je vais capitaliser sur mon diplôme parce que je suis très très malin et en fait, je vais milquer mon diplôme pendant les 40 prochaines années, 50 si l'âge de la retraite bouge et tout ira bien. Pour prendre un débat d'actualité, mais je me suis dit, en fait, pour moi, c'était une phase parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai effectivement fait le SCP, j'avais fait des stages en banque d'affaires, j'avais fait des stages en... J'ai géré un magasin Nicolas, j'avais fait plein de trucs différents. Et à chaque fois, j'avais appris beaucoup de choses. Après, chez Orange, j'avais travaillé en Slovaquie, en Moldavie, en Angleterre, en Pologne, donc plein de pays différents. Et à un moment, je me suis dit trois choses pour le MBA qui m'ont vraiment motivé. La première, c'est de se dire... c'est de jouer dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a quand même une institution mondiale, en termes de business, une reconnaissance qui s'appelle le MBA américain. qu'on le veuille ou non, c'est quand même là où ça se passe, c'est que la Harvard Business Review fait autorité. C'est là d'où viennent les majorités des patrons de fonds, des CEO, etc., etc. Et ce que je trouve intéressant avec ces MBA, c'est que contrairement au système français où quelque part l'aspect intellectuel se fait en prépa et l'école de commerce a un petit côté alimentaire, quelle que soit l'école de commerce, a un petit côté épicier. Au côté américain, le business est quelque chose de noble. C'est une conviction que moi je partage, qui est de dire en fait, le business est une science. C'est pas les mathématiques, mais et c'est une science qui se fait par l'étude de cas précis. Et donc moi, c'était jouer dans la cour des grands et disposer d'outils de croissance intellectuelle auxquels croient ces MBA. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai absolument adoré mon temps à l'ESCP et je suis extrêmement reconnaissant. Tu l'as dit, je donnais cours là-bas pour t'apprendre les bases quand tu as 20 ans. Mais après, je me suis dit que le risque était qu'en fait, dans ma carrière, je reste à voir les mêmes problématiques, en l'occurrence télécom, en l'occurrence une entreprise, alors qu'il existe une infinité de problématiques, une infinité de profils de gens. Et ne pas être exposé à ça, pour moi, surtout quand je suis en train de dire, j'avais 27 ans, aurait été une grave erreur de carrière. C'est en gros, je me serais fermé à un accélérateur en termes intellectuels, un accélérateur en termes de réseau, un accélérateur en termes de compréhension du business. Donc le premier choix, c'était, je veux grandir, j'aime le monde des affaires. Je crois que c'est quelque chose qui est fait de gens intelligents. Je pense qu'il y a des règles derrière, je pense qu'il y a des choses qu'on a appris lors des dernières décennies. Et je serais quand même très arrogant de dire que je peux m'en passer, en fait. Et c'est pour ça que Harvard, mais c'est vrai pour d'autres écoles américaines, cet aspect vraiment concret, tous les jours, on avait trois cas par jour, on était à la place du CEO. Et donc un jour, j'étais le patron d'une boîte qui faisait des céréales dans le Minnesota. Le lendemain, je gérais l'État de Singapour. Le surlendemain, je devais installer des antennes télécom. Et alors effectivement, c'est pas pareil que faire le job. Effectivement, c'est virtuel dans une salle de classe. Mais je me dis, à quel moment je peux m'inspirer de gens qui, dans ma section, conseillaient George Bush sur sa stratégie, avaient inventé YouTube, etc., etc. À quel moment je peux me dire que je peux me passer de l'avis de ces gens-là, je peux me passer de réfléchir. Et en fait, ce qui fait souvent que le MBA, pour beaucoup de gens, est pas attractif, c'est deux choses dans l'esprit français. La première, tu l'as dit, c'est quand on a fait une bonne école de commerce, c'est à quoi bon? Le recrutement des trois parisiennes, en gros, c'est à peu près la moitié d'une promotion d'Harvard sur les Français, les autres étant les 3-4 top écoles d'ingénieurs. Donc, c'est assez ciblé. D'accord. Comme recrutement. Donc, et ça, j'ai un petit peu répondu avec cet aspect, effectivement, de croissance intellectuelle, de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais l'autre côté, c'est, est-ce que c'est rentable pour moi? C'est-à-dire, en gros, et les gens tirent le trait en disant, si je fais 2 ans de plus dans mon job, est-ce que je pourrais arriver au même point? Et j'ai beaucoup de discussions avec des jeunes qui me disent, mais oui, mais vous comprenez, moi, on m'a dit que si je restais dans mon cabinet de conseil, si je restais dans ma banque d'affaires, si je restais dans mon fonds, sans mettre de l'argent, je dis, mais cette expérience, vous l'aurez qu'une fois. Vous aurez toute la vie pour faire du fonds, du conseil, ce que vous voulez derrière, mais cette expérience de vous mettre pendant 2 ans en danger, apprendre et sortir pour faire quelque chose que vous ne saurez pas faire, c'est quelque chose que vous aurez une fois dans votre vie. Donc, en fait, est-ce que vous allez vous bloquer leur potentiel pour les 40 prochaines années sous couvert que si vous réussissez très bien dans votre job, à la fin, vous aurez économisé $20,000, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est effectivement un saut de foi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que le MBA, si on n'est pas convaincu à 100% du truc, faut pas le tenter. Ça prend beaucoup de temps. Tu l'as dit, ça coûte de l'argent. Il faut beaucoup se remettre en question. Moi, j'ai un camarade qui a fait Harvard quelques années après moi, il m'avait expliqué le jour où il est rentré que jamais, au grand jamais, il ferait autre chose que private equity. Maintenant, c'est un entrepreneur successful à New York. Il a levé des fonds, son entreprise cartonne. Il ne vit que pour l'entrepreneuriat.
Oui, c'est aussi un lieu. Enfin, en fait, c'est d'ailleurs ce que j'aime assez dans cette idée, c'est que contrairement au système français où finalement tu rentres mais tu as zéro expérience quand tu rentres en grande école, ben finalement c'est difficile aussi de se projeter, de savoir quelle va être ta carrière, de se poser des questions. Là, comme tu as un petit peu d'expérience, pas énormément, mais 3-4 ans, c'est aussi un moment vraiment de remise en cause de ton parcours professionnel et de se dire ben, ok, je prends 1 an, 2 ans pour réfléchir à qu'est-ce que je veux. Et puis j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est très juste, c'est-à-dire que tu vas être confronté à tellement de secteurs différents, tellement de sujets différents, qu'au final c'est le moment où où tu te dis, bon, bah, finalement, est-ce que je suis plus marketing? Est-ce que je suis plus, différents sujets? Peut-être que finalement, tu peux t'intéresser, au monde politique ou des choses comme ça. Et c'est une ouverture, quoi, tout simplement. Alors, qui coûte cher, mais qui te permet de vraiment prendre du recul sur ta carrière et de te dire, si je veux me réorienter, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, de prendre un temps qu'on ne prend pas forcément dans le monde professionnel, parce qu'on est un peu dans une espèce de course-poursuite vers la promotion qui va venir, etc. Donc,
c'est exactement ça. Alors, sur l'aspect financier, je crois qu'en moyenne, une fois que je regarde les chiffres, mais Harvard, il y a une hausse de salaire à peu près de 100%. Donc, les gens doublent leur salaire en moyenne. Donc, l'aspect financier amortit assez vite. Mais c'est vrai que c'est l'idée d'avoir accès à une multitude de ressources pour choisir sa carrière, et c'est aussi changer de paradigme. Je trouve intéressant, au système français, ce qu'on commence, on fait du marketing, du conseil, de la finance. Théorie d'Harvard, c'est on devient un leader. Après, on peut appliquer ce leadership à de la finance, à des ONG, à des... Mais il y a vraiment cette idée, et c'est une idée qu'on... Peut-être qu'on reparlera après, mais c'est l'idée en France que 80-90% du savoir est des hard skills. Donc, c'est pour ça qu'on priorise l'écrit sur l'oral.
Des compétences, faire des maths.
Quelles sont vos compétences, faire des maths, connaître la compta, savoir construire des ponts.
Ouais.
Là où on dit aux États-Unis, et je trouve ça assez vrai, c'est que ces compétences hard, en gros, c'est très bien pour les juniors ou les experts, mais que le vrai patron, le vrai CEO, le vrai ministre, le vrai, c'est la personne qui, justement, lui, a développé suffisamment de finesse, d'attention pour prendre des décisions avec des données incomplètes. Et si je retiens qu'une chose d'Harvard, c'est un training de 2 ans pour prendre des décisions sans forcément absolument avoir tous les détails, toutes les données, et la meilleure décision possible en temps imparfait. Le training français est très bon pour, lorsqu'on a absolument toutes les données d'un problème, le résoudre.
Ce qui, quand on est entrepreneur, notamment, on n'arrive jamais, mais même dans le monde professionnel, de façon générale, bien c'est sûr. Impossible.
Exactement. Et donc, c'est une reconnaissance que, en fait, les soft skills, donc les capacités managériales, d'écoute, de posture, d'expression, de structuration, du discours, etc., sont essentielles à un certain niveau. Mmh. Et pour moi, c'est plutôt un training pour devenir... MBA, patron, etc., que vraiment pour comprendre le marketing ou la finance.
C'est rigolo d'ailleurs que tu utilises ce mot de soft skill, parce que je me suis toujours dit que c'était un mot qui est extrêmement mal choisi, parce qu'en fait, on dit que c'est soft parce que c'est mou, mais en réalité, comme tu le dis, il y a des méthodes, premièrement.
Bien sûr.
Et puis, deuxièmement, c'est tout sauf... Enfin, c'est hard, pour le coup, au sens où c'est difficile.
Ouais.
Et c'est au sens où, franchement, c'est en fait, probablement, à certains égards, beaucoup plus difficile, parce que l'humain fait que... Et comme tu le disais, l'information limitée fait que c'est pas évident de réussir à prendre des décisions. Toi, si t'avais... peut-être un grand enseignement, ou avec beaucoup de recul maintenant, parce que c'était il y a un petit peu de temps et ensuite on passera à un autre sujet, mais quelque chose que tu retiens de ces 2 ans de Harvard en particulier, une nouvelle méthode de travail, une ouverture, peu importe à la rigueur, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué, que tu t'attendais peut-être pas à apprendre là-bas ou à comprendre.
Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement marquant dans le MBA, c'est que en fait, c'était la relation à ce qui est bien. Je vais un peu expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, là, quand on arrive, surtout avec le système français, c'est qu'on est dans une classe à peu près de 90 personnes. On a tous les jours 2 ou 3 cas. Et en fait, on veut lever la main au début très vite pour trouver la bonne réponse et pour dire au prof, moi, je sais, j'ai compris pourquoi le machin, il doit faire ci, il doit faire ça.
Juste pour expliquer en 2 mots, tu peux très très rapidement, je suis désolée de t'interrompre, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que la méthode des cas, expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe.
Tout à fait. Alors, en fait, la méthode à Harvard, donc ce qu'on appelle la case method, la méthode des cas, tous les jours, vous recevez dans votre boîte aux lettres 2 ou 3 cas. Donc, un cas, c'est un document qui fait entre 5 et 10 pages, qui décrit une situation dans l'entreprise, dans un gouvernement, dans une association humanitaire concrète. Donc, je vais vous donner des exemples. Vous êtes le club de foot de Tottenham. Vous devez construire un nouveau stade. Où est-ce que vous mettez l'argent? Est-ce que vous soumettez vraiment dans un nouveau stade? Est-ce que vous achetez un nouveau joueur? Et donc, vous êtes vraiment le CFO de Tottenham, le directeur financier. Et vous avez 2, 3, 4, 10 cas. Et vous devez prendre une décision sous 1 heure. Parce que le board arrive et vous avez les éléments qu'a le directeur financier 1 heure avant ce board. Et vous avez en plus la chance d'avoir le directeur financier qui est là en classe, qui vous explique à la fin pourquoi il a pris une telle... Je prends un autre exemple, peut-être moins d'actualité, mais on avait eu un cas sur Carlos Ghosn qui arrive au Japon sous l'étiquette Nissan à l'époque, parle pas un mot de japonais, doit réorganiser Nissan et comprend très vite que culturellement c'est compliqué, comprend très vite qui peut être loyal ou pas, et lui à la fin qui vient dans la salle de classe et qui dit voilà pourquoi moi j'ai pensé si ça c'était une erreur, ça ne l'était pas. Donc c'est vraiment en fait d'être vraiment toujours à une heure d'une grande décision avec les éléments dont vous disposez qui sont jamais exhaustifs, et donc vous prenez ces éléments où vous avez et ce qui est assez marrant, et moi ce que je trouvais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand je suis arrivé, je me disais, est-ce que je vais trouver la bonne réponse? Et c'est un peu cliché, mais c'est ça qu'on comprend assez, qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Et que même Carlos Ghosn ou autre, ou le patron de Tottenham, souvent n'a pas pris la bonne réponse, souvent a pris une des moins mauvaises décisions possibles, et qu'on est 90 dans cette classe, avec des backgrounds différents, des passions différentes, et qu'on trouve 90 solutions différentes. Et donc moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt que de me dire... qu'est-ce que je vais pouvoir trouver la bonne solution ? Je me suis dit, il y a quand même 89 autour de toi qui peuvent t'expliquer un truc que tu ne sais pas, parce que en général, la vision de la solution qu'on a soi-même, on la connaît. Oui. Donc, écoute un peu. Et donc, en fait, je suis en passé de « je trouve la bonne réponse » à « comment je navigue des informations en écoutant les autres » à « comment les autres perçoivent cette information avec, après ce qu'on se connaît en dehors des cours, donc avec leur ressenti, à tiens, est-ce que j'arrive bien à comprendre les gens? Tiens, quels sont leurs leviers? Et en fait, c'est une mutation par ces cas qui passe de oui, la réponse c'est 12 à je suis avec 89 personnes, ces gens-là, je dois co-construire quelque chose d'intelligent et il y a une bonne chance qu'il y en ait moins 50 qu'un truc plus intelligent que moi à dire. Donc, il faudrait plutôt les écouter, absorber, ouais, changer d'avis. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça le changement de mindset que j'ai vécu durant mes années.
Et comme tu as utilisé le mot de leadership à plusieurs reprises, je rebondis dessus, c'est que bien souvent, on dit que le leadership, c'est justement pas d'imposer un avis comme la vérité révélée ou tu vois... c'est bon, c'est comme ça. Enfin, ça, c'est une vision peut-être un peu française, très militaire, mais qui n'est pas l'unique façon d'être un leader. Et souvent, en fait, le bon leader, il va puiser l'information à la source plein de sources différentes, justement, pour se l'approprier, l'assimiler, et ensuite, à la rigueur, prendre une décision. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'écoute, en fait, et d'empathie dans le leadership, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense que le leadership, effectivement, il n'est pas... plus t'es haut, plus t'as la bonne solution. Je me rappellerai toujours, mon premier chef chez France Télécom m'a raconté, donc 60 et quelques années, je le salue s'il écoute le podcast, polytechnicien, cœur des télécoms, et il m'a dit, le jour où je suis passé manager, France Télécom a perdu un bon ingénieur et a gagné un mauvais manager. Et je trouvais ça assez intéressant, en fait, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup échangé dans mes débuts professionnels, et je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, le chef... c'est pas celui qui est le plus expert de tous. Il y a quand même cette notion de si je peux faire mieux que mes subordonnés leur travail, je mérite d'être leur chef. Il y a un petit côté tribal. Si je sais chasser plus vite qu'eux, du coup, et ramener plus de gibier, c'est moi le chef. Bon, je pense que cette méthode, à mon avis, c'est qu'elle est clairement dépassée. Et qu'aujourd'hui, en fait, on attend vraiment d'un chef deux choses, à mon avis, et donc du leader. Un, c'est d'offrir une vision. C'est-à-dire aussi de dire, voilà, aujourd'hui, je pense que la solution, et en offrant une vision, de facto, le leader arbitre. Parce qu'il est... c'est Elon Musk qui dit, voilà, moi, je considère aberrant que 95% d'une navette qu'on envoie soit perdue. Je considère aberrant que les voitures ne soient pas 100% électriques. Je considère, etc., etc. C'est à la fin quelqu'un qui tranche et donne au reste de l'organisation des priorités. L'autre aspect, c'est sur le comment y aller, qu'est-ce qui est mieux, qui après est en totale écoute par rapport à ses équipes pour dire ce que ma vision, déjà, je peux l'influer. Peut-être que j'ai dit que c'était ça, mais en fait... elle... Et deuxièmement, si vous êtes d'accord sur la vision et qu'on sent qu'à un moment, c'est la bonne, la manière d'y aller, moi, je suis une ressource, en fait, pour mes équipes. Et je trouve que cette forme de leadership est hyper intéressante. Quelque chose que j'avais beaucoup apprécié quand je travaillais chez Google... c'était que souvent les managers disaient « What can I do to help you ?» Et c'est l'idée d'aujourd'hui du manager ressource, que le manager connaît forcément moins bien le terrain que ses équipes, connaît moins bien leur métier, connaît moins bien les données. Donc le manager, il doit écouter, avoir un avis critique, dire, se mettre d'accord sur où il faut aller, et ensuite avoir un poids qui plus on monte et plus est politique pour pouvoir donner aux équipes des ressources pour réussir. Le manager, en fait, est au service de ses équipes. et le leader encore plus. Et donc, c'est vraiment des gens qui peuvent à un moment porter un discours, porter une vision, qu'on est patron d'entreprise, parler à la bourse pour acquérir les ressources, amener les talents, les faire travailler ensemble. C'est la métaphore connue du chef d'orchestre. C'est pas le meilleur buteur au football, mais c'est plutôt l'entraîneur,
etc. Mais bon, enfin, ça peut paraître basique de le répéter, mais en réalité, on voit tellement en fait de cas contraires, je pense, dans le milieu du travail, tu vois, quand, enfin, dans une petite boîte comme la mienne, mais même dans des plus grosses boîtes, que je pense que c'est toujours bon de le répéter. Et toi, justement, tu me fais une belle transition à nouveau vers Google. Donc, je sais que tu commences par rentrer donc chez Amazon d'abord et ensuite Google. Quand tu sors de ce MBA, donc après ces 2 ans, je ne sais pas ce que tu avais dealé avec Orange, mais est-ce que tu te... Enfin, quel était ton projet de carrière à ce moment-là? Est-ce que tu saurais t'en rappeler? Quel était pour toi l'objectif professionnel, donc de rentrer en France visiblement?
Non, ce n'était pas du tout ça. En fait, j'ai juste... Enfin, pour parler un peu de manière plus personnelle, en fait, mon objectif de carrière était plutôt au début de rester aux États-Unis. J'avais rencontré sur le campus d'Harvard celle qui allait devenir ma femme. Elle voulait rester aux États-Unis aussi. Donc, elle faisait un doctorat en économie et avait ou allait avoir une offre du FMI. Donc, on était tout à fait prêts à commencer un peu à vivre aux États-Unis. Et il se trouve que mon père est tombé très malade et est décédé. Donc, il y a eu vraiment un choix, mais que je trouve, qui est paru évident, qui était un choix familial auprès de ma mère, ma sœur. Donc, qui était un choix de rentrer en Europe. Et en fait, c'était assez marrant. Si je fais un peu de recul, ce que j'ai appris, c'est que je m'étais quand même raconté une histoire qui était Harvard, carrière aux États-Unis, quoi. Et en fait, avec le recul, c'était pas une décision parce que c'était une évidence, mais le destin a fait que j'aimais profondément l'Europe et j'avais toujours au moins un petit fond inter qui me disait j'aime bien l'Europe, j'aime bien Londres, j'aime beaucoup Paris, je suis monégasque, donc en plus, j'aime être pas trop loin de Monaco. Donc, j'avais un plan de carrière. Et ça, je pense, c'est intéressant. Et j'avais un gut feel. Et je me rappelle, vraiment, donc, à un moment, je me suis dit, je rentre en Europe, mais j'étais pas triste d'abandonner. J'avais une offre de job aux États-Unis. Mais j'étais pas du tout triste de pas aller aux États-Unis. Et parce que je me disais, en fait, je suis bien en Europe. C'est là que je me fais. Donc, déjà, je trouve qu'on est tous très forts et moi en tête pour se raconter la carrière idéale. qui est celle qu'en gros font nos voisins de droite et de gauche en MBA ou en école ou... Et moi, j'ai appris à croire à mon gut feel. Et donc, après, une fois que j'ai dit je reviens en Europe, j'étais un peu pragmatique. Sincèrement, je voulais une entreprise américaine parce que j'avais beaucoup aimé la manière de manager. J'avais quand même beaucoup aimé ce pays et je me disais, bon, je veux quand même un petit bout de Boston à Paris, quoi. Parce que revenir faire Boston et puis Paris, ça aurait été un... Donc, je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise américaine?
Ouais, et puis le MBA aussi est quand même plus valorisé.
Ah oui, alors totalement. Dans des boîtes américaines. Valorisé dans des... Là où le MBA est le plus valorisé aujourd'hui, clairement, c'était les entreprises de private equity, les banques d'affaires, les cabinets de conseil et les entreprises américaines en général, qui plus est en technologie. J'étais pas forcément sûr de vouloir faire du conseil, du private equity et tout. Donc, à un moment, et la technologie m'attirait bien. Donc, j'ai postulé dans 2-3 boîtes. J'avais effectivement, une anecdote quand même un peu rigolote. J'avais effectivement postulé dans 2-3 boîtes, notamment en France, de boîtes de luxe et on va dire de consumer goods cosmétiques. Je m'étais retrouvé 2 fois au plus haut niveau avec des membres du COMEX. Et j'avoue que j'ai eu une remarque une fois d'un qui m'avait dit, vous savez, ici, on vend pas les téléphones, hein, il va falloir un petit peu muscler son jeu, quoi. Et je m'étais dit, et en fait, ce que j'avais compris, et l'autre, le DRH aussi, avait dit, oui, vous savez, ici, on fait pas du process, hein, ici, on n'est pas comme nos concurrents américains, ici, c'est un joyeux chaos, mais c'est le génie français. Et je me suis dit, il y a quand même une dose... de masochisme, où souvent quand les gens vous disent ça, avant le MBA, j'aurais dit ah ouais, ici ils sont super durs, ils sont méprisants, c'est là, faut que je vienne. Parce qu'il y avait vraiment ce petit côté, surtout quand on est en grande école, qui est de dire s'ils sont durs, s'ils sont méchants, s'ils vous disent que vous êtes rien du tout, c'est que forcément je dois montrer ma valeur, c'est les meilleurs, et ils peuvent se permettre. Et là, après un MBA, j'ai dit mais super, merci beaucoup. Donc, en gros, vous me dites le bordel, c'est mieux que les processus, d'accord. vous me dites que vous ne vendez pas de téléphone. Bon, écoutez, je m'en étais un peu rendu compte. Et donc, je pense que c'est un niveau de mépris, en fait, pour le candidat. Et deux fois, je me suis levé, je suis parti, quoi.
Ah oui.
Ce qui, ah, mais vraiment, je dis non, mais j'ai serré impoliment. Je dis, écoutez, voilà, je pense qu'on s'en reparlera à l'occasion, mais je vous remercie beaucoup. Et il y avait aussi ce côté que j'avais beaucoup moins avant et en stress scolaire, c'est le côté. On n'est pas n'importe qui, quoi. Et si on est à la table, c'est que les gens sont intéressés. C'est très facile et les RH le font très bien de pas répondre. Donc si on... et en fait, il y a des choses que je n'accepterai plus, quoi. Moi, j'arrive, je trouve que je suis tout à fait poli, correct avec n'importe quelle personne, du patron à la personne qui nettoie ou au stagiaire. Et à un moment, on dit, j'ai le droit au même niveau de respect, en fait. Et je trouve que culturellement, cet aspect dont tu parlais, un peu hiérarchique, un peu militaire, tu disais le terme militaire,
Oui, il y a le côté, il faut bizuter les gens.
Il faut bizuter les gens, je dis, ben non. Donc après, j'ai postulé une entreprise américaine, j'ai postulé en deux boîtes, chez Amazon, chez Google. La première fois, j'avais pas eu de réponse de Google. J'avais beaucoup aimé mes entretiens chez Amazon, donc je suis allé travailler un peu moins de deux ans chez Amazon, où je m'occupais de l'ancienne catégorie sport et du business, tout ce qui était mode.
Mm-hmm. Et alors, pour parler de Google un petit peu, tu fais le shift et donc tu passes chez Google au bout de deux ans, donc sur justement tout ce qui est retail, si
Exactement.
Je ne me trompe pas. Et alors, j'ai été hyper intéressée parce que tu es resté, je crois, cinq ans, c'est ça, chez
ouais.
Google. Tu as gravi les échelons quand même très rapidement pour devenir à la fin, si je ne me trompe pas, donc, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais head, donc manager global des pure players, notamment de tout ce qui est retail sur la zone Europe, donc tout autant des Amazon justement que j'imagine des Fnac, des boulangers, enfin tous ces grands retailers. Je voulais parler de l'énergie et de la méthode Google, parce que donc j'ai beaucoup parcouru ton LinkedIn et j'ai vu que tu avais eu énormément de reviews dithyrambiques de tes collègues, etc., qui avaient dit que tu étais quelqu'un qui arrivait non seulement à avoir beaucoup d'empathie, mais qui arrivait à avoir des résultats. Et donc, je trouve que c'est bien de réussir à allier les deux déjà, mais est-ce que tu pourrais me dire, et c'est peut-être un petit peu vague comme question, mais qu'est-ce que toi, tu estimais être ta valeur ajoutée, ou qu'est-ce qui a fait que tu as gravi peut-être les échelons en civique? Est-ce que c'est ton empathie? Est-ce que c'est le fait que tu as réussi à appliquer justement une certaine méthode de management, que tu as suivi les conseils des autres? Qu'est-ce qui a fait finalement que tu as réussi, tu vois, à t'épanouir autant chez Google, qui est quand même une entreprise compétitive où il y a énormément de personnes qui sont hyper forts? Donc, c'est pas évident non plus, tu vois, de réussir à forcément performer là-bas.
Déjà, on a été pas mal à bien réussir. Je pense que c'est une entreprise qui permet soit de se développer, soit les gens qui effectivement sont moins à l'aise font d'autres choses. Donc on était une belle promotion et je reste encore assez proche de beaucoup d'entre eux à avoir être rentré en même temps, à être monté ensemble. Donc là-dessus, il y a vraiment évidemment une dynamique collective. En tout cas, les choses que j'ai fait bien, il y a plein de choses que j'ai fait mal, mais les quelques choses que j'ai fait bien sur l'aspect résultat, c'est que je donnais très peu de priorité à mes équipes. En fait,
le paradoxe.
En fait, moi, je pense que dans le système français, on souffre de quelque chose. Alors, je vais faire une minute de digression, mais c'est ce qu'on appelle le concept de la moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, pour passer, il faut être à peu près bon partout. Mais depuis qu'on est au primaire, au collège, et si on a 18 en maths et 4 en français, il faut bosser le français. Là où le monde anglo-saxon, et c'est pareil pour le tennis, moi je suis un amoureux de tennis et on regarde les joueurs de tennis français, ils ont toujours un bon service, un bon coup droit, un bon revers. Je suis un grand fan de Gilles Simon, de son gars. Là où l'Américain, où l'Espagnol, il gagne tout sur terre battue, il a un style de tennis, l'Américain, il a le service, il sert à 200 et après il ne sait pas faire un revers. Mais à un moment, il y a quand même un côté.
Il se spécialise, quoi.
Exactement, il se spécialise et puis surtout, ils font peu de choses, mais bien. Et je pense que une des choses différenciantes, ça a été de travailler sur quelques projets, quelques indicateurs et de les suivre. Et j'avais un boss, donc chez Google, Nick Leader, pour ne pas le citer, que j'aimais énormément, et qui m'avait dit une phrase une fois qui m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit, donc c'est un Australien, il m'avait dit, when I go to see a CEO, I tell him we have three priorities. And sometimes two would be enough. Donc, parce qu'en fait, au niveau de grands, grands décideurs, et si vous voyez, si tu regardes aujourd'hui ce que font, je sais pas, les boîtes, pour qu'il y ait le plus grand aspect, comme Accor, comme Carrefour, ils ont toujours le patron, hein, une à deux priorités. Ça peut être le numérique, ça peut être autre chose, mais ils vous, quand les types commencent à dire priorité numéro 12, on se dit, c'est pas un patron, c'est un junior, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, c'est pas une priorité, quoi.
C'est pas une priorité. Parce qu'en fait, on peut, donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, et ce que je pense m'a aidé dans ma carrière, c'est de dire, on va concentrer nos efforts sur 2-3 projets qu'on va bien faire, parce qu'en fait, quand on commence à en faire 5-6, on les fait tous mal. Et ça, je pense que c'est une vérité assez universelle. Donc, la première chose que je pense qui m'a aidé, c'était vraiment de dire, de rassurer mes équipes, parce que mes équipes me disaient, mais attends, il y a aussi ça, il y a aussi ci, on a reçu une mail, non, vous occupez pas de ça. Ça, c'est important. Le reste, j'assume. Du coup, être une ressource pour tenir, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir cette logique-là, puis dès qu'il y a un coup de fil au-dessus, dire « Ah, mais en fait, ça sert à rien de
connaître. » C'est ça. Voilà.
Moi, je me suis engagé il y a... Et ne pas subir la dictature de deux choses, en tout cas que j'avais identifiées, c'était du quotidien et du concret.
Qu'est-ce
le quotidien, c'est « Oui, mais aujourd'hui, on nous a remonté ça, ça redevient une priorité. » Et passer un contrat avec le top management, le DG France, dire « Voilà, dans 3 mois, on aura fait ça. » Est-ce qu'on est d'accord, sauf crise nucléaire, qu'on aura ça en 3 mois? Et avoir des choses à 3 mois qu'on délivrait, mais en ayant un pacte moral, en disant « Moi, je m'engage à délivrer ce que je vous ai dit. » En revanche, vous vous engagez à ne pas me changer les règles du jeu, parce que sinon, je vais perdre la face dans mes équipes, et sinon, du coup, je perds toute crédibilité. Donc, c'était vraiment... Et assumer...
Et toi, t'es garant, en plus de ça, je veux dire.
Tu es garant, et puis à la fin, on te dira « Mais pourquoi t'as pas sorti ce que ça serait ?» Parce que les gens oublient que le quotidien a changé.
Bien sûr.
En revanche, ils se rappellent qu'on leur a envoyé un mail il y a 3 mois pour dire « Ça, ça sera fait et pas fait, quoi. » Donc ça, c'était une première chose, je pense, qui m'a aidé. Et la deuxième chose, c'était la dictature du concret. C'est-à-dire qu'en gros, les types vous disent « Oui, mais concrètement, mon client m'a dit que le N-4 du patron m'a dit que ça, le cas particulier, et lui pense que... » Et en fait, quand on prend tous les N-4 du patron, on se rend compte qu'il y a, il y a 150 cas particuliers, rien ne va, ouais. Rien n'est possible, et c'est un peu la dictature du terrain. C'est-à-dire qu'en gros, oui, les gens, dans leur haute sphère, ils ne comprennent pas, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Alors, évidemment qu'il faut écouter le terrain. Mais je pense qu'on a un cas naturel à parfois trop écouter le terrain. C'est un truc qu'on dit assez peu, mais à toujours dire, ah oui, c'est vrai que ça, on peut pas le faire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, oui, mais, on a une vision, on veut faire ça. Je prends un... Je sais pas, nous, on a voulu faire pour le coup.
Ouais,
tu aurais
un exemple de, justement d'un cas, tu vois, où bah, tu as dû dire non aussi à un certain nombre de choses parce que tu avais en permanence bah, soit le concret, soit le... Je ne me rappelle pas l'autre terme que tu as utilisé.
Quotidien.
Le quotidien, ouais, qui te tombait dessus. Et en gros, tu sais que le projet a été mené à bien parce que tu as dû bander les abdos et que peut-être aller voir aussi ton boss régulièrement et lui dire bah non, là en fait il faut qu'on tienne notre ligne, et pareil avec tes collaborateurs en N-1, un cas peut-être concret de justement cette tenue, tu vois.
Je pense, ouais, j'ai un cas de cette tenue, mais c'était, on était avec un grand retailer, là je citerai pas le nom, mais avec lequel on avait vraiment un plan stratégique assez ambitieux mais assez intéressant. Et c'est passé ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire qu'en gros, Google Shopping a été coupé pour ce client, il y avait du référencement qui passait moins bien.
Les problèmes, quoi.
Exactement, les problèmes du quotidien. Et le coup de fil du patron qui dit « mais dans ce cas-là, on n'est pas partenaire ». Et la chose, alors je ne l'ai pas toujours bien fait, mais la chose qui est bien faite avec ce client en particulier, c'est de dire « écoute, moi, je me suis engagé sur des choses. J'ai jamais marqué dans le contrat que tu ne serais pas coupé parce que tu sais que moi, ça ne dépend pas de moi. C'est des règles qui sont appliquées au-dessus. Donc, si tu veux faire rentrer ces choses-là dans la balance, en fait, un, je pourrais pas les gérer. Donc, je peux potentiellement te mentir et te dire oui, on va réussir, mais il y a des choses qui ne sont pas de mon pouvoir. Il y a des choses qui sont décidées au-dessus de moi et qui sont des règles un petit peu immuables et ouais. Objectivement, je peux pas être à la fois le joueur et l'arbitre. En revanche, si maintenant tu me dis que tu veux casser le deal, on se dit, ok, on casse le deal, mais tout ce qu'on t'a promis, il ne sera pas. Et l'espèce d'un peu de compensation, oui, mais je veux plus parce qu'il m'est arrivé ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien fait avant. Donc, c'était vraiment concrètement, il est arrivé d'autres
avec
choses.
Avec un client, pas évident quand même. Hein.
Oui, mais je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, quel est mon downside? De toute façon, si à un moment, admettons que je rentre dedans, je dis, ok, écoute, je vais essayer de négocier un truc différent pour toi, ou alors tu vas voir... Tout le monde se connaît. En fait, pour
oui,
avoir
oui,
la
non,
paix sur du lundi au mardi, je vais avoir la guerre sur 3 ans.
Ah ouais, non, mais tous c'est l'effet moyen long terme, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. Et je me suis dit, de toute façon, on se pose ces questions. Je me dis, mais à la fin, qu'est-ce que j'ai à perdre? On fait que dire qu'il faut des actes de leadership. Bon, c'est dans tous les bouquins. Et là, tu en as un à faire qui est pas quand même pas très méchant. On parle pas d'attaquer l'Iran. On parle pas clair. On parle de dire à un type qui Google Shopping
calme.
Ne sera pas lié dans le deal. Donc, franchement, c'est un tout petit acte de leadership.
Ouais.
Et je me suis dit, si t'es pas foutu de faire ça à 32 ans, alors que tu n'en es ni rien Google, mais qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce que tu as le droit de demander, en fait? Qu'est-ce que tu as le droit de demander à la firme si t'es pas capable aujourd'hui de t'affirmer comme leader sur quelque chose de tout petit? Parce que j'espère, enfin, je me souhaitais d'avoir des décisions plus dures à prendre dans ma vie, en fait.
Je trouve ça hyper intéressant que tu aies eu ce recul pendant ce moment-là, parce que le nombre de personnes, enfin, le nombre de cas où moi, si tu veux, moi, enfin, j'ai envie de dire moi-même, mais je suis loin d'être irréprochable, mais t'es tellement le nez dans le guidon, t'as tellement envie de bien faire, enfin, t'es tellement, puis t'es face à quelqu'un, t'as envie d'éviter les coups aussi, exactement, ouais. Que du coup, bon, bah, tu cèdes, alors que, avec un tout petit peu de recul, et je pense que cette question que tu poses, qu'est-ce que j'ai à perdre, elle est assez puissante, en fait.
C'est aussi quelque chose que j'ai appris, alors pas de moi, mais c'est pas mal d'autres gens chez Google pour que j'ai pas mal d'admiration. En fait, il y avait chez Google beaucoup de gens qui vraiment faisaient absolument tout pour la promotion suivante, et vous aviez des gens, t'avais des gens qui, on avait l'impression qu'ils n'avaient aucune attache. Ils dégageaient une forme de confiance, ils dégageaient une forme de demain je peux faire autre chose. Ben, ces gens-là ont toujours mieux réussi parce qu'ils dégagent, ils prenaient souvent des meilleures décisions. Et c'est vrai qu'à un moment, en les observant, je me suis dit, mais de quoi t'as peur? Cette décision que tu prends, c'est la bonne, déjà. C'est celle qui a le plus de valeur pour le client, celle qui a le plus de valeur pour Google. Mais ça se passe mal pour toi. Tu as un MBA d'Harvard, un diplôme de l'ESCP, de l'expérience dans des bonnes entreprises. Ça se passe mal pour toi, ce qui n'a jamais été le cas, c'est que l'entreprise n'a pas tes valeurs non plus. C'est qu'à un moment, si en gros, tu dois payer les pots cassés pour quelque chose où tu n'avais pas la main d'après bonne décision, il est temps de partir. Et donc, ça a créé une réflexion chez moi qui a été... De toute façon, si l'organisation t'envoie des signaux qui ne sont pas en lien avec ta vision, tes valeurs, ton ambition, voire qui ne sont pas corrects, c'est l'organisation qui doit changer, pas toi. Et comme elle ne changera pas, il faut que tu partes. Mmh. Parce que tu ne vas pas tout seul. Et du coup, ça a été un vrai sujet de maturité de dire, de toute façon, aujourd'hui, toi, ce que tu peux faire, c'est prendre des bonnes décisions qui bénéficient à tout le monde, qui pourrait sortir en une New York Times, sur l'exemple qu'on avait chez Google. Est-ce que ta décision pourrait sortir en une New York Times? Tu serais confortable, oui, non? Et si à un moment...
Je veux bien que tu répètes ça. C'est quoi? C'est une
sorte de maxime qu'on avait, qui était de dire, quand tu prends une décision, pour juger si elle est éthique, si elle est bonne, c'est demain, là, on la sort en une de New York Times, est-ce que tu es confortable ou pas? Ou est-ce que tu te mets à suer, à trembler, à... Typiquement, ce cas-là, j'étais confortable. C'est pas dans mon périmètre. Ce que j'ai fait, le maximum de valeur pour le client et pour Google, c'est un optimum que je trouve, en tout cas, je trouve de bonne foi juste. Donc, j'assume. Et vraiment, ça m'a rendu, ça, fois quelques autres décisions, ça m'a rendu serein en disant, de toute façon, le jour où l'organisation te demande d'être court-termiste, c'est que, un, l'organisation va mal,
ouais.
Et que, deux, t'as plus ta place. Si elle te fait pas assez confiance, parce qu'il faut se dire les choses franchement, si elle te fait pas assez confiance pour une décision moyen terme, c'est que sur moyen terme, elle compte pas sur toi. donc, dans ce cas-là, il faut se poser des bonnes questions. Heureusement, chez Google, ça a jamais été le cas. Moi, j'ai vraiment vécu 5 années superbes, mais vraiment, entre Paris et aussi au bureau américain à Mountain View, mais vraiment, ça a été assez impactant pour moi de me dire... Le jour où on te demande de faire du court terme, c'est que tu ne sers plus au court terme, c'est que moyen terme, tu ne seras plus là, quoi, d'une manière ou d'une autre.
Tu as fini par quitter Google malgré ces 5 années assez merveilleuses, d'après ce que déjà tu me disais à l'époque, mais pour une aventure qui n'a rien à voir, parce que donc maintenant, tu es... Alors, je ne sais pas quel est le titre officiel, secrétaire d'État, ministre.
Alors, délégué interministériel au gouvernement princier, qui s'occupe du tout ce qui est numérique.
Ouais.
Donc
est quand même un saut dans l'inconnu, même si tu es monégasque. Et dans un métier qui n'a rien à voir, donc tu avais toutes les compétences, donc parlant des hard skills, enfin tu avais une connaissance, on va dire, du numérique qui était très forte et une légitimité. Mais je voulais, j'aime bien les changements de carrière, j'aime bien les décisions justement qui mènent à des changements de carrière, et je voulais te demander qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Est-ce que tu avais peur? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment franchi le pas? Sachant que, évidemment, ça fait rêver, mais c'est quand même des enjeux énormes. Et puis, enfin, voilà, un peu un saut dans l'inconnu aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait et que tu as pris cette décision? Ouais.
Alors déjà, c'était pas du tout prémédité. Mais comme souvent, les bonnes décisions, c'est-à-dire que, en gros... J'avais fait effectivement 5-6 ans chez Google. Je me demandais est-ce que je refaisais un cycle ou pas. J'avais eu des offres pour être comité exécutif de grosses boîtes, notamment de retail. Mais je reviens toujours à mon gut feel. J'avais rien trouvé vraiment qui m'éclatait. Tout était très cohérent. Les chasseurs me disaient que c'était évident que c'était le job A ou le job B qu'il fallait faire. Et du coup, je vais faire une ou deux conférences en principauté devant le prince souverain, devant le ministre d'État, qui est l'équivalent du chef de gouvernement, qui est aujourd'hui mon manager, et sur le numérique. Et en reconnectant un peu plus avec Monaco, je me suis rendu compte de deux choses. Un, que le numérique était fait pour Monaco. Enfin, Monaco, c'est un pays à énormément de valeur ajoutée, à énormément de talent, avec très peu d'espace. Et qu'est-ce qui permet de créer beaucoup de valeur ajoutée, qui a besoin de beaucoup de talent et qui a pas besoin d'espace, c'est le numérique. Et en plus, Monaco, c'est un pays qui attire une élite mondiale, que ce soit des patrons, des sportifs, des gens du monde de la culture, et qu'aujourd'hui, l'expérience, je dirais, du luxe ou de la qualité de vie ne peut être pensée sans le numérique. Donc, à un moment, à force de discussions, de conférences, il est arrivé un moment où... on m'a proposé en fait de rentrer au gouvernement et de prendre en fait l'ensemble de toutes les directions administratives s'occuper du numérique. Donc on a à peu près maintenant 180 personnes dans mes équipes qui s'occupent de ces sujets-là, ce qui à l'échelle du gouvernement est quand même assez stratégique. Et en fait, on a choisi de pas recréer un nouveau ministère, mais d'avoir une structure qui est absolument transverse pour pouvoir toucher tout le monde.
Oui, parce qu'il y a le béaba du, enfin,
ce qui est le béaba du numérique. Parce que la pire chose aurait été de recréer des silos. Donc on a vraiment dit, voilà, aujourd'hui, mon périmètre, ma mission, elle est assez claire, en fait. C'est deux choses. Et je pense que le prince souverain l'a vraiment dit dans ses mots. Un, c'est créer un nouveau cycle de prospérité pour le pays. Donc c'est vraiment de se dire, Monaco est un pays assez exceptionnel, qui a 700 ans d'histoire avec la famille Grimaldi, et qui a toujours réussi à se renouveler. Donc il y a toujours... Et là, en fait, c'était de contribuer et d'apporter ma pierre dans le sillage des priorités du prince, donc être en fait le CEO de cette transformation, le faire les opérations, là où le prince fait la vision, pour transformer et créer un nouveau cycle de prospérité économique via le numérique. L'autre aspect, c'était vraiment de transformer, je dirais, l'expérience Monaco, que ce soit de la mobilité, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, etc., etc., avec nos valeurs. Monaco est un pays qui est extrêmement humaniste, qui est extrêmement soucieux de l'environnement, qui est extrêmement social, qui est basé sur un aspect familial entre les différents monégasques, entre la famille monégasque, comme on dit. Et donc, ce qui était important, c'était de comprendre ce qu'était Monaco, parce que la transformation numérique, elle doit avoir lieu. Mais elle peut avoir lieu de 100 façons différentes. Ouais. Et donc, ma mission, c'était vraiment de transformer Monaco et d'avancer et d'accélérer, parce que de toute façon, c'était la chose à faire, mais de le faire avec l'aspect, avec les spécificités monégasques. Donc vraiment, c'est ce cycle de prospérité économique et cette transformation de l'expérience, tout en étant très je dirais conscient de ce qu'est Monaco, de son ADN, et en aucun cas de défigurer ce qu'est Monaco. C'est ça qu'on a lancé un programme pour la transformation numérique qui s'appelle Extended Monaco, ce qui veut dire deux choses pour nous. La première, c'est que c'est pas que le gouvernement, c'est pas que les membres du gouvernement, c'est pas que nous, c'est aussi la mairie, les entrepreneurs, le conseil national, nos résidents, les communes limitrophes, le pays, c'est tous les gens qui veulent contribuer à ce nouveau Monaco qu'on est en train d'imaginer et de créer sous l'impulsion du prince. Et l'autre chose, c'est un Monaco qui va beaucoup plus loin que ses frontières grâce au numérique, qui impacte, qui a une aura encore plus forte. Donc voilà, c'est un petit peu ça sur quoi repose la mission. Et donc ta question qui était pourquoi en fait ce choix et comment à un moment on fait ce choix-là, sincèrement, alors c'est sincèrement, on est moins payé que chez Google.
Bah ouais.
Donc c'est pas un choix financier.
Et puis la qualité, bon, on peut en parler rapidement. La qualité de vie à Monaco est superbe, mais toi, comme ton épouse habite à Paris, tu dois quand même faire des allers-retours.
Enfin, toutes les semaines. Je prends un premier avion le lundi matin et je rentre en fin de semaine.
Pour ta qualité de vie personnelle, c'était quand même pas évident.
Mais et donc moi, la seule question que je me suis posée, c'était combien de fois dans ta vie. Alors, la réponse était facile. Tu auras la possibilité d'influencer en profondeur quelque chose qui t'est cher et qui plus est le plus important de ton pays. Combien de fois on te tendra la main pour te dire voilà, aujourd'hui tu peux transformer l'avenir de quelque chose qui est fondamental pour moi. Moi j'ai grandi, j'ai une mère qui est ambassadrice de Monaco, enfin, on a vraiment un grand-père qui était croupier occasion, on a un attachement extrêmement fort, je dirais viscéral à la principauté. Et combien de fois un chef d'État va te dire écoutez, je vous fais confiance pour mener à bien ce projet qui est important pour moi. Et quand on a posé la question, en fait, on a trouvé la réponse. Donc ça a été
T'as
une décision.
T'as hésité longtemps quand même ou pas?
Pas beaucoup, objectivement. Pas beaucoup parce que, encore une fois, j'ai eu vraiment ce coup de cœur pour ce.
Et c'est une mission que je regrette pas. Le poste était quand même parfait pour toi.
Le poste au gouvernement est parfait. En plus, alors, c'est quelque chose, je développe des compétences que j'aurais jamais développées dans le monde privé. Enfin, on parlait un peu d'un monde qui est plus politique, d'un monde qui est plus concret. Deux gens avec qui je travaille, avec qui j'étais pas forcément, qui ont des parcours différents du mien. Ouais. Alors, chez Google, on a quand même tous des parcours un peu équivalents. Et un impact réel. Donc, non, pour moi, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma carrière.
Hein. Écoute, félicitations en tout cas. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je trouve assez fascinant le fait que tu sois quand même un peu projeté dans un nouveau gouvernement, tu connaissais pas grand-chose malgré tout, enfin, quand tu as démarré. Et donc, je me dis, qu'est-ce que moi je ferais à ta place à ce moment-là? J'en ai aucune idée. Mais donc, je voulais savoir quelles ont été les premières étapes, quelles ont été peut-être les trois premiers mois, tu vois, de Frédéric Janta quand tu arrives et que tu as cette mission qui est très claire. Mais tu dois capter toute cette information et donc tu as un rôle à la fois de leadership. En même temps, il faut que tu te fasses accepter. Enfin, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Quelle a été ta vision pour la prise de poste, quoi, si je puis dire?
Alors c'est vrai que pour le coup j'ai beau être monégasque, je connaissais, j'avais personne dans la famille qui était en administration, donc j'avais pas forcément une compréhension totale des mécanismes, de la façon de. En fait, je pense que c'est un petit peu du test and learn, c'est-à-dire qu'en gros moi j'arrive avec mon passé, mes convictions, ma manière de travailler, l'administration en a une autre. Je dois la faire évoluer, mais l'administration doit aussi me faire évoluer. Donc, en fait, il faut trouver un compromis qui est bénéfique en ce que l'administration a de positif, ce que ma vision a de positif. Et à un moment, il faut se dire, OK, chacun doit amener le positif parce que l'administration n'est pas entreprise privée. Elle n'a pas les mêmes vocations, elle n'a pas les mêmes réflexes. Mais en revanche, certains aspects qui peuvent être améliorés. Donc, moi, mon obsession pendant ma prise de poste, ça peut être les 100 premiers jours, mais même après, ça a été de dire qu'est-ce que je dois apporter et où est-ce que je dois écouter et faire attention parce que mes réflexes ont plutôt desservir Monaco que servir Monaco. Et en même temps, tu as dit comment j'arrive à créer un périmètre qui est clair, à montrer la valeur que j'apporte, sachant que ce type d'expérience n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement était immuable, donc arriver et créer cette nouvelle structure était quelque chose d'assez... comment je l'explique? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ces 100 premiers jours? Déjà, on ne fait jamais assez de pédagogie. Donc, s'il y a des choses à refaire, c'est qu'on n'explique jamais assez.
Au sein du gouvernement même.
Au sein du gouvernement, au sein de l'administration, au sein du pays. Deuxièmement, les gens veulent du concret. C'est-à-dire qu'en gros... on peut expliquer toute la journée qu'on fait des structures du cloud, de la 5G, je sais pas. Les gens veulent savoir ce que ça change dans leur quotidien. Donc, il y a eu vraiment un effort immense de rapprochement en disant, déjà pour moi, puis moi par mes équipes, en disant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quel impact sur les gens? Et donc, il y a eu une obsession, et ça plutôt positif, de dire, OK, mais concrètement, en quoi ça change la vie de qui? Ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt bien fait pour créer cette vision. Enfin, il y a eu vraiment un niveau d'appropriation fort, c'est-à-dire qu'en gros, on n'était pas venu, on est beaucoup juste pour, entre guillemets, changer les pistes du gouvernement. On voulait vraiment impacter mais on n'est pas vocation non plus à faire le métier à la place des gens. Donc, il y a vraiment une question de positionnement. Je prends un exemple. On lance un test sur la véhicule autonome. C'est pas mes équipes qui vont gérer la mobilité à Monaco. En revanche, elles doivent apporter des choses sur ce véhicule autonome. Et donc, c'est une somme de partenariats. Et en fait, la beauté de ce job, c'est que c'est vraiment montrer une valeur ajoutée sur un mode qui ne peut être que partenarial. Donc c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure des soft skills, c'est vraiment en fait à chaque fois prouver, s'adapter. Et donc parfois quand on veut trop prouver, ben les gens trouvent qu'on s'adapte pas assez, parfois qu'on s'adapte trop, on a pas assez d'impact. Et donc c'est toujours une espèce de curseur en disant je montre où je suis compétent et en même temps j'offre de la vision. Donc après c'est pas facile parce que au moment où vous offrez où on offre de la vision, et ça c'est un truc que j'ai appris, c'est le moment où on arrive et on dit voilà le principe de vision, voilà comment on la décline de manière plus opérationnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire en 2019, ça veut dire en 2020, qu'est-ce que ça veut dire en 2021, qu'est-ce que ça veut dire en 2022, sur quoi on va prioriser, etc. En fait on vit une période compliquée qui est il a fait des belles promesses mais so what. Donc c'est en fait, il faut aussi, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il faut aussi assumer une période où on sait que ça va être dur parce qu'on partage cette vision, parce qu'on a envie de faire adhérer les gens, mais on sait qu'en partant cette vision, alors qu'elle n'est pas encore réalisée, on va forcément avoir...
Oui, il y a un désamour forcément au moment, entre exactement. La vision et le moment où tu l'implémentes.
Exactement, en disant, oui, mais... Donc, effectivement, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre normalement dans ce job, mais vraiment, les leçons majeures que j'ai eues, c'est vraiment, on ne réussit pas contre les gens. Donc, il faut absolument fédérer, expliquer, rassembler, écouter. Et j'ai quelqu'un, une de mes collègues, Google, qui disait, il faut vraiment de perdre du temps pour en gagner. Et ça, c'est vraiment le learning que j'ai eu, c'est vraiment, il faut... passer du temps avec les gens, écouter, que leur oui soit un vrai oui, parce qu'une fois que c'est débloqué, il faut que ce soit un oui sincère.
C'est pas juste. J'imagine que tu es confronté assez régulièrement à des personnes qui disent oui, oui aussi, tu vois, pour éviter le sujet, gagner du temps, etc. Mais il faut avoir une certaine...
Bien sûr, et puis on passe à autre chose, et puis de toute façon, c'est la mode du moment, et on fera autre chose. Et en fait, moi, je suis convaincu que Monaco doit faire cette transformation de la bonne manière. Et les pires cas, ce serait si on arrête de le faire, ou c'est si on le fait de manière mécanique, sans prendre en compte, encore une fois, nos valeurs. Et pour prendre en compte nos valeurs, il faut aligner les gens, parce que les gens sont vraiment l'âme de l'administration, l'âme de l'État, et donc il faut beaucoup les écouter. Et en même temps, il faut écouter beaucoup, mais en disant, par contre, on y va.
Ouais.
Parce que donc, je
ça,
comprends.
Et
donc,
pas faire
c'est
que
équilibre.
Du compromis et que du
Exactement.
Consensus non plus.
Parce que sinon, on finit par ne rien faire. Et là, le constat est... Et ça reprend un peu la phrase dont on parlait précédemment, c'est qu'à un moment on se dit non mais là pour le coup quand je dis qu'est-ce qu'on a à perdre, là on a à perdre parce que si je trouve que le pays ne réussit pas cette étape, ça sera alors Monaco est un pays extraordinaire, a plein d'autres formes de ressources donc je dis mais je pense que ce sera dommage, ce sera une occasion manquée.
Ouais, c'est sûr.
Si le pays réussit pas ça, ce sera une occasion manquée et un potentiel non réalisé. Je pense que ce sera dommage. Du coup, il faut effectivement beaucoup expliquer, beaucoup convaincre, proposer une vision, assumer les temps difficiles entre la vision et la réalisation, et grandir en fait, toujours à penser au coup d'après. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de faire, mais vraiment de l'importance d'expliquer, surtout des sujets concrets. Je pense qu'on n'est jamais assez... Et c'est là où tu le disais en intro, donner des cours à des étudiants, donner des cours à l'ESCP, c'est quelque chose qui... l'aspect didactique, l'aspect simplification, parce que si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, dans 99% des cas, c'est qu'on l'a mal expliqué, quoi. Mmh. Je ne crois pas au fait que 100 personnes soient bêtes et qu'on soit intelligent.
Ouais.
Donc ça montre, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on soit vraiment sur une logique de partage, d'explication et de plus expliquer. Quand on a l'impression qu'on explique trop, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a juste commencé à assez expliquer.
Ça, Ça, c'est quand on se rend compte de ça, c'est que effectivement, tu commences à avoir compris deux, trois choses, quoi. Parce que je vois très bien ce que tu veux dire. Écoute, Fred, pour terminer, j'aime bien poser quelques petites questions un peu plus perso sur la fin. Ouais. J'appelle ça mon crible du gratin. Et ma première question, c'est est-ce que tu as vécu un échec ou un moment particulièrement difficile dans ta carrière ou peut-être dans ta vie perso dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés? Je trouve que souvent, ça permet de... Bah déjà de rendre la personne en face un peu plus vulnérable et un peu plus humaine. Et puis souvent, on apprend énormément évidemment de ses échecs. Donc, si tu as un moment comme ça.
Moi, j'avais eu, c'était pas un truc trop grave, mais qui m'avait beaucoup marqué, c'était quand j'étais à Harvard, on avait quelque chose qui s'appelait la Learning Team. Donc tous les jours pendant un an, on se retrouvait pour préparer nos cas ensemble. Donc on en était 6. Et on avait donc une consultante italienne, quelqu'un qui gérait une usine justement dans le Minnesota, un financier new-yorkais, etc., etc. On était 5-6, un investisseur californien, indien. Et en fait, j'avais l'impression que, tout au début, que voilà... je bossais à moitié, je préparais mal les trucs, mais comme j'avais mis 3 bons chiffres... Et l'échec que j'ai eu, c'est qu'un jour, ils sont venus me voir en me disant « Écoute, on t'aime bien, mais on sait parler. Et en fait, tu ne crées pas des masses de valeur, donc on essaie que tu dégageais quoi, de la Learning Team parce que, voilà, en fait, nous, on bosse beaucoup. Tu apportes beaucoup de valeur parce qu'en fait, on divisait les cas entre nous. Et toi, tu n'apportes pas suffisamment
de travail,
voilà, de qualité en tout cas et d'impact. » Et ça m'avait beaucoup vexé. Je pense qu'au fond, c'était très très vrai, et ça m'avait beaucoup fait réfléchir, et en fait ça avait fait vraiment l'apologie de les gens, un, nous jugent en permanence et il faut le savoir, et donc oui, les détails ont de l'importance, oui, quand on arrive bien habillé au bureau, c'est important, oui, quand on parle correctement, oui, quand on a mis une heure de travail, ça a de l'impact, et c'est parce qu'on n'a pas l'impact direct que ça n'en a pas en fait, et donc ça m'a vraiment donné une philosophie de travail. J'ai essayé de progresser en disant tous les petits efforts en plus ont un moins un gros impact. Et c'est pas parce que tu reçois pas tout de suite le reward que ça ne compte pas, au contraire. Et ça a été assez un aspect fort de ce que j'ai essayé de faire ensuite. C'est évidemment il y a des décisions majeures à un moment, que voilà, à droite ou à gauche pour une carrière. Mais si on fait pas chaque jour un petit peu plus d'efforts, en fait, elles arriveront juste pas. Et donc, le fait de se faire foutre dehors cette learning team par des gens qui étaient plutôt bienveillants, qui étaient étudiants comme moi et qui m'ont dit, bah, écoute, t'es pas assez bon, en fait. Ça m'a vraiment fait dire, bah, oui, effectivement, des Américains, there's no free lunch, quoi. Si tu mets pas tes heures, si tu fais pas comme les autres, les génies sont très rares et donc, à la fin, c'est une vraie, donc, cet échec, en fait, m'a permis vraiment de réaliser mon éthique du travail. En se disant, ben oui, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. S'il faut 2 heures et que tu fais 20 minutes, eh ben, à la fin, c'est dehors, quoi.
Ouais, et chaque petit détail compte aussi.
Exactement. Et chaque détail compte. Et c'est, alors, c'est pas la peine, c'est un peu comme dans un couple de faire une grande déclaration et un dîner, mais c'est surtout aussi de se comporter tous les jours de manière correcte. Et c'est un truc qui a pas mal impacté à ce moment-là. Déjà, mon père était un peu malade. Moi, mon père est suisse et était protestant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé après dans l'éthique protestante, dans l'éthique de un peu travail quotidien, de l'aspect...
Pas très sexy parfois, mais qui en fait délivre des résultats et puis qui surtout est empreinte plein de valeurs.
C'est qui est très juste. Alors, c'est sûr que c'est moins... Mais c'est, je trouve qu'il y a une forme de justice en disant... Effectivement, à la fin, voilà, on a fait les efforts suffisants. Donc, ce vrai échec a vraiment permis de me dire, bon, bah, effectivement, il y a une chose à changer de manière assez radicale. Bon, accessoirement, tu vas devoir plus bosser parce que tu n'auras plus été capé par les autres. Et donc, tes matinées seront un peu différentes. Mais ça a vraiment... Et puis, je trouve que ça a pris une deuxième chose, c'est que les gens le vivent aussi comme une forme de respect, parce qu'en fait, ce qu'ils me disaient, c'était pas tes cas sont moins bien faits. Enfin, s'il y avait, oui, déjà, oui, il y avait ça, mais en plus, c'était tu nous manques de respect, quoi. Ouais. Nous, on est capable de faire ces efforts, t'es pas idiot, donc tu te rends compte que t'en fais moins quand même, on pense. Et quelque part, c'est une forme de manque de respect. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me permet de. Ça a changé deux choses. Un, j'essaie d'arriver toujours dans les meetings les plus préparés, les plus possibles. Donc, chaque fois que je vais voir quelqu'un pour discuter, j'essaie vraiment de préparer ce que je voulais dire. Et deuxièmement, c'est un respect du temps des gens. C'est-à-dire qu'en gros, et ça fait un peu la boucle sur ce que tu me disais sur l'empathie, c'est qu'en fait, les gens... tout le monde a des vies perso, certains ont des enfants, des parents malades, des passions. Et en fait, je pense que la meilleure forme de respect, c'est de ne pas leur faire perdre de temps. Donc évidemment, on est sociaux, on est polis, mais qu'à un moment, quand on demande du temps aux gens, parce qu'on, pas quand on se voit, on demande du temps aux gens, on leur demande de nous en prêter, et ils demandent de nous en prêter, c'est une forme de respect d'arriver clair, de savoir ce qu'on veut faire, de dire les choses de manière assez honnête. Et donc, il y a une espèce d'éthique aussi là sur la gestion du temps qui est sortie de là, parce qu'en fait, j'avais voulu leur prendre du temps et pas trop en donner.
Ouais, c'est ça.
Et à un moment, ce déséquilibre a été vécu à juste titre comme un manque de respect et a été du coup payé, quoi.
C'est rigolo que tu parles de ça. Je lisais un bouquin il n'y a pas très longtemps sur le légendaire CEO d'Intel, Andy Grove.
D'accord.
Qui disait que l'une des règles de culture de chez Intel, c'était que personne ne devait arriver en retard au meeting. Et en fait, il disait parce que la ressource temps, c'est la ressource en fait la plus précieuse et la plus rare qu'on ait. Et c'est juste en fait une preuve d'irrespect total d'arriver en retard à un rendez-vous. Et apparemment, l'anecdote dit qu'il a créé ça suite à l'arrivée une fois d'un des managers à un meeting où il était là et où il s'est mis, je crois qu'il était un peu soupolé en plus, il s'est mis un peu à hurler en disant « Est-ce que tu te rends compte que la chose que j'ai la plus précieuse au monde, bien plus précieuse que tout l'argent de la Terre, etc., c'est mon temps et que là, tu viens de me faire perdre 20 minutes ?» Et apparemment, ça avait marqué les esprits. Et c'est vrai que je trouve que souvent, on oublie, parce qu'on est très concentré sur soi, que en fait c'est du temps qu'on prend aux autres quoi quand on se prépare pas, quand on n'est pas bien présent quoi tout simplement dans la conversation. Donc j'aime assez cette idée. Une autre question que je voulais te poser, c'est l'une de tes plus grandes peurs et comment tu l'as surmontée, si tu l'as surmontée.
Alors l'une de mes plus grandes peurs c'était, on en a un peu parlé mais ça continue, c'est que moi j'ai un besoin réel de, je pense, sécurité. C'est-à-dire que j'ai un besoin vraiment profond de me dire, ok, c'est des gens qui sont plus ou moins averses au risque, et moi j'ai besoin de me dire, bon, je n'ai pas forcément envie d'avoir un rendement qui est x100, mais je ne veux pas non plus me mettre à risque par rapport à... Voilà, je n'ai pas envie effectivement de vivre beaucoup moins bien que ce que je vivrais. Alors ça peut être une question financière, mais de style de vie, de couple, parce que... Mais par contre, si on me dit que je vivrais pas 100 fois mieux, je peux vivre avec. Donc et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très limitant. Parce que par définition c'est quelque chose qui apporte des garanties, mais les garanties se font en contrepartie d'avancer. Et je commence, j'essaie petit à petit de prendre des risques.
Tu te forces à le faire un peu, tu...
Ah oui, je me force complètement à le faire.
T'aurais un exemple d'un petit risque À part venir sur ce podcast, me parler.
Non, ça c'était pas... écoute, d'un petit risque, écoute, qu'on a... Ouais, à un moment, par exemple, on a... Enfin, pas moi, mais l'ensemble du gouvernement, on a... On a lancé récemment, on a été premier pays à lancer la 5G en principauté. Et en fait, on a pris pour le coup, à juste titre, absolument très peu de risques, voire aucun risque sur la santé. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui absolument pas mis d'ondes millimétriques, on aura moins. Donc en fait, on a pris zéro risque pour la santé des gens. Mais le fait de la lancer... parce que ça pouvait comporter de craintes...
disruptives.
Oui, de ce qui pouvait être lu dans la presse, que nous, on a choisi vraiment, en fait, du coup, d'avoir une 5G qui n'avait pas tous les potentiels, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'ondes millimétriques, on fait moins de champs électromagnétiques, parce qu'on enlève la 2G, donc on va vraiment encore... Monaco, en termes d'ondes, sera plus safe en 2020 qu'en 2019, donc on est vraiment sur une logique ultra... et indispensable, ultra conservatrice. Quand tout à l'heure, je parlais de nos valeurs, l'humain, la santé sont indispensables à Monaco. Monaco ne fait en aucun cas le compromis sur l'éthique, l'environnement et l'humain. Et donc là, on a dit, sur la santé, on veut qu'il y ait zéro risque, qui est absolument et qu'on puisse montrer, et que c'est ça qu'on a pris des normes, par exemple, qui sont 8 à 10 fois inférieures à celles de l'OMS sur les ondes. Donc l'OMS dit le capping c'est tant, nous on est 8 fois inférieurs. Donc pour nous, le risque humain n'est juste pas envisageable, ni acceptable, ni envisageable. Mais le fait à un moment de se dire on va être le premier pays à le faire
au monde,
ben quelque part on se met sous les feux des projecteurs, parce que si on est le 12e, finalement les gens voient pas de risque parce qu'ils savent que dans les pays voisins ça a été fait, et que le fait le premier, alors aujourd'hui on peut se rassurer, elle a été lancée en Irlande, la 5G elle a été lancée en Corée, elle a été lancée à Saint-Marin, elle a été lancée donc dans certaines villes anglaises, c'est un quartier de Toulouse, à Marseille récemment. Donc, mais le fait de se dire voilà, nous on prend cette responsabilité d'annonce, parce qu'on ne prend encore une fois absolument aucun risque sur la santé. Je pense que c'était une situation délicate dans laquelle je me suis mise, parce qu'effectivement on allait devoir gérer avec mes équipes, avec d'autres parties du gouvernement, une situation qui pouvait être compliquée en termes de ressenti des gens. Et là, du coup, oui, je me suis effectivement dit, après c'est une décision collégiale, mais je me suis dit, allez, on doit lancer ça, c'est la bonne solution pour l'État, c'est la bonne solution pour l'avenir économique de la principauté d'avoir ce nouvel atout, c'est une bonne solution pour la transformation numérique de Monaco, c'est une bonne solution pour les gens parce qu'ils auront plus de services sans impact négatif. Mais je pense que là, j'ai dû objectivement forcer ma nature, parce que c'était se mettre au premier rang. J'ai porté pas mal de messages là-dessus, de par mon rôle et de par la tutelle que j'ai sur Monaco Télécom. Et je pense que oui, là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment sorti de mon besoin de sécurité.
Et tu penses que tu vas continuer à essayer, alors pas forcément au niveau professionnel uniquement, mais continuer à essayer de prendre des risques, celui-là a été assez important parce que c'est quand même un enjeu, mais c'est quelque chose qui te titille justement, de te dire j'ai envie de me sortir un peu de ma zone de confort, justement de sécurité comme tu dis.
Oui, parce que je suis convaincu et je me rends compte qu'en fait, et c'est rigolo, je parlais avec plus tard que cette semaine, quelqu'un qui monte sa boîte, et je lui dis, tu sais, tu lèveras beaucoup plus facilement 3 millions 300 000 euros, quoi. Parce qu'en fait, pour lever, déjà, le coût de la due deal fait que lever 300 000, ça n'a aucun intérêt pour un fonds. Et évidemment, le fait de se projeter sur un business où tu aurais besoin de lever 3 millions fait que de toute façon, tu changes de dimension alors que tu as besoin de 300 000. Et je pense que la principauté a toujours su dans l'histoire voir grand. A toujours su devenir cet endroit de rêve. La famille princière a fait rêver le monde entier. Cette élite t'a tiré. Et donc je pense que je dois, même dans mon travail, voir grand et me forcer à voir grand pour un pays qui, par nature, dans son ADN, a vu grand, qui par nature rayonne, qui par nature aujourd'hui prend des engagements et écouter sur le terrain de l'environnement au monde entier. Et donc quelque part, pour moi, c'est une condition sine qua non de mise à niveau par rapport à ce qu'est le pays, à son ambition, à son histoire, et de mise à niveau par rapport à l'ambition du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas... En fait, les gens qui réussissent dans ce monde-là, c'est des gens qui tout de suite voient grand et qui après adaptent. Commencer petit est, à mon avis, un risque trop fort. Et qui plus est quand on s'appelle Monaco.
Super intéressant. Dernière question. Les livres que tu recommandes, qui t'ont le plus marqué, que tu donnes peut-être le plus autour de toi?
Alors, les livres qui m'ont le plus marqué... Alors moi, je ne suis pas un grand lecteur. J'avoue, je suis très podcast, mais je suis moins un grand lecteur. Donc, ce que j'ai lu récemment, qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre d'un professeur qui s'appelle Monsieur Green, Richard Green, qui s'appelle Les 48 règles du pouvoir. Et en fait, ça boucle un peu avec notre discussion sur ce qu'on appelait les soft skills, c'est qu'en fait, la personne, il dicte, alors 48, mais ça aurait pu être un autre nombre, règles, un peu d'interaction humaine, et il reprend des exemples historiques qui vont de Napoléon aux différents empires chinois, à la Renaissance italienne... Et il explique en fait par ses exemples quelles ont été les règles humaines qui ont fait que telle et telle décision ont été prises. En fait, souvent, on a l'impression que les décisions qui sont prises, mais de par l'histoire, sont toujours des décisions purement rationnelles, quantifiées. Mmh. Et en fait, un autre livre que j'ai beaucoup aimé, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, où il explique deux types de réflexions, le cerveau A, le cerveau B.
Qui a déjà été cité sur le podcast et qui est assez incroyable, je veux dire.
Qui est assez inspirant, je trouve, Système A et Système B. Ouais. J'aurais plus du
le titre, c'est Thinking Fast and Slow.
Ah oui, Thinking Fast
anglais.
And Slow,
en
c'est
français,
ça. Mais non, c'est Thinking Fast and Slow, mais il explique son système A et système B dans le livre. Et ce que je trouve passionnant, c'est que se dire qu'en fait, non, il y a beaucoup de décisions d'impact qui appartiennent à des logiques humaines, qui sont peut-être parfois meilleures que, ou même souvent meilleures que je dis, les logiques quantitatives et rationnelles, parce qu'à un moment, l'être humain, c'est qui fait ses différences avec la machine, a une intuition, a une vision au coup d'après, à des sensations, et en fait, toutes ces règles, on les apprend, je trouve, assez peu.
Ouais.
Et si on veut, à moins, avoir un impact positif, on se doit de savoir quel sera l'impact humain, quelle est la logique, en fait, derrière ce qu'on essaie de faire. Donc moi, ce livre, je l'ai trouvé assez, assez passionnant. Et l'autre qui m'a beaucoup marqué, je l'avais lu il y a assez longtemps, il s'appelle The Power of Habit. C'est un journaliste américain qui s'appelle Charles Dunning, qui a aussi fait un MBA Harvard, comme quoi ça mène à tout, qui en fait a une théorie, c'est que la croissance de la personne, qu'elle soit personnelle, professionnelle, se fait en instaurant les bonnes habitudes. Et donc il dit, en fait, c'est illusoire de penser que pour faire de la croissance, et j'aurais peut-être dû le faire avant d'avoir ma learning team, si on n'a pas les bonnes habitudes, c'est qu'on va faire une chose une fois,
ouais.
Mais tout impact est quelque chose de profond et de travaillé. Et donc il dit, vu que c'est la chose la plus importante, je vais déconstruire ce qu'est une habitude, je vais analyser qu'est-ce qui fait qu'on en prend des bonnes, des mauvaises,
ouais.
Et avec des histoires, alors c'est très américain, c'est très bien raconté, c'est très bien illustré, je vais réfléchir à l'aide de scientifiques, de psychologiques, de neurologues, sur comment, en fait, je peux calibrer les bonnes habitudes pour avoir un impact réel. Parce que vouloir à chaque fois réinventer la roue, changer c'est ou sûr. Faire un coup d'éclat est juste illusoire. Donc, genre, un, il faut l'accepter. C'est-à-dire, non, je suis un animal fait de 90% d'habitudes et je peux avoir 2-3 coups d'éclat. Mais si je traite les habitudes, j'aurais traité une grosse partie du problème. Et ensuite, être sûr qu'on met les bonnes dispositions en place.
Est-ce que, j'avais pas prévu de te poser cette question, mais je la pose quand même, est-ce que tu as justement une habitude ou quelques habitudes que tu as réussi à t'instaurer suite à la lecture de ce livre ?
Il y en a 3 que j'essaie, mais je suis pas encore parfait, mais qui sont importantes pour moi. C'est 1, le sommeil. Moi, je crois qu'on peut pas réussir sans sommeil. Donc, j'ai une conviction forte, c'est pour ça que j'investis, par exemple, investir c'est un gros, mais j'essaie d'acheter des beaux pyjamas. Parce qu'on passe 8 heures par jour en pyjama, voire 9, 10 heures. Et en fait, les gens ont toujours des pyjamas pourris.
C'est vrai.
Alors qu'ils mettent beaucoup d'argent sur leurs habits pour aller.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc moi, j'essaie vraiment d'avoir, mais à part les pyjamas, non, j'essaie vraiment de dormir déjà de manière régulière. On a un petit bébé qui a 11 mois, donc c'est plutôt elle qui dicte un peu le rythme de sommeil, mais j'essaie vraiment d'avoir un niveau de... Et c'est vrai que je vais prioriser le sommeil par rapport à un aspect social. La deuxième chose, c'est que j'essaie d'avoir une passion où je progresse. Alors moi, c'est le tennis. Je suis un amoureux de tennis et c'est la... En fait, quand je joue au tennis, j'oublie tout le reste. Il faut absolument que je me concentre à qu'est-ce que je fais. Il y a un aspect tactique, un aspect physique. Et la troisième chose qui est plus physique, mais qui en fait... a plus d'impact qu'on croit, c'est que je me force le matin, et j'arrive pas toujours, alors que ça paraît tout bête, à boire un grand verre d'eau à 35-36 degrés.
Ah ouais.
Parce que, un, c'est la meilleure façon de commencer à purifier son estomac, commencer en fait en bonne santé. Et deuxièmement, quand on commence sa journée en contrôle, en réussissant à faire chauffer de l'eau, à la mettre dans un verre, à la boire, avant d'aller se jeter sur le Nutella ou le yaourt,
ouais.
Bah, c'est quelque part, on est déjà
oui,
en contrôle.
Tu cadres, tu contrôles, dans l'émotionnel.
Donc, c'est vraiment de m'appliquer ces trois habitudes.
Bah, tu vois, écoute, j'ai bien fait de poser cette question. Merci beaucoup, Fred.
Merci,
juste,
Pauline.
Si on veut te trouver sur le monde merveilleux du web, donc on va évidemment visiter Monaco déjà, bien
ça,
évidemment.
Ça, je vous recommande de visiter la Principauté, qui est un pays absolument exceptionnel. Ensuite, il y a un site extendedmonaco.com qui décrit absolument tout ce qu'on fait.
D'accord.
Et à titre personnel, LinkedIn, Twitter,
Frédéric Janta.
@FredJanta. Et Frédéric Janta sur LinkedIn.
Et ben, je mettrai tout ça dans les liens. Merci beaucoup, Fred.
Merci, Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.